France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La raison de son art, de ses compositions, lui poser la question l'embarrasse grandement. C'est comme si on demandait à une grenouille, dit-il, pourquoi elle vit dans l'eau, pourquoi elle a des pattes palmées, elle n'en sait rien. Mais il faut bien, pourtant, il fallait bien, poser des questions à un peintre tel que Jean Dubuffet. C'était en mars 1954, alors que 200 de ses œuvres allaient être présentées au public. L'art est-il basé sur des conventions? Toujours, même si ces conventions, il faut les transformer, les violenter quelque peu. L'art brut, les dessins d'enfants, bon, Dubuffet n'aimait pas beaucoup les enfants et leur esprit un peu faible, ou les esprits un peu faibles. Et puis, certaines œuvres sont de très grandes farces, fussent-elles une provocation métaphysique. Des idées et des hommes, quelques propos sur la peinture, première diffusion sur la chaîne nationale, le 20 mars 1954.
La radiodiffusion télévision française présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Au cours de cette émission, vous entendrez quelques propos sur la peinture. Conversation entre le peintre Jean Dubuffet, Georges Limbourg et René De Cellier. Une grande exposition attire en ce moment une foule d'amateurs et de curieux au Cercle Volney. C'est la rentrée de Jean Dubuffet, l'un des enfants terribles de la peinture contemporaine. Dubuffet n'avait pas exposé depuis 7 ans. René Drouin a groupé plus de 200 tableaux qui permettent d'apprécier l'œuvre du peintre dans son ensemble comme dans le détail. Cette œuvre a des admirateurs passionnés et des détracteurs non moins passionnés, comme il advient pour toute création originale. Ne pouvant point vous présenter le peintre, les peintures elles-mêmes, j'ai cru intéressant de demander à Jean Dubuffet de répondre à quelques questions que lui poseront Georges Limbourg, l'auteur des Vanillés, de nombreux articles profonds et subtils sur la peinture, et notamment d'un livre sur Jean Dubuffet lui-même, et René De Cellier, l'auteur des Gardes, romancier, poète et critique d'art.
Eh bien, cher Jean Dubuffet, voici cette grande exposition. Vous n'en aviez pas fait depuis 1947. 200 toiles, ou enfin 200 tableaux, veux-je dire, puisqu'il ne s'agit pas toujours de toiles, il s'agit rarement de toiles avec vous, on le sait bien. Et je suppose qu'à propos de cette grande exposition, de cette rentrée sensationnelle, comme on dit, sur la scène de l'art à Paris, on a dû déjà vous poser beaucoup de questions, et que parmi ces questions doivent revenir un certain nombre d'entre elles qui sont de véritables poncifs, c'est-à-dire l'art brut, les dessins d'enfants, etc., etc. Et on a dû aussi vous demander, toujours et bien gentiment, exactement ce que je vais vous demander maintenant, quelle idée vous faites-vous de l'art? Qu'est-ce que pour vous que l'œuvre d'art, quel rôle joue-t-elle dans votre vie? Enfin, pourquoi êtes-vous artiste? Pourquoi êtes-vous peintre?
Les Européens ont la manie de vouloir les raisons de toutes choses, de vouloir analyser toutes les choses. Et moi, j'ai une forme d'esprit qui est justement très différente. Je voudrais retrouver l'expression sans aucune espèce d'explication, l'expression à l'état brut. Et pour cette raison, chaque fois qu'on me pose des questions sur les raisons de mon art et de mon comportement, on m'embarrasse grandement. On m'embarrasse à peu près comme on embarrasserait une grenouille si on lui demandait pourquoi elle vit dans l'eau, pourquoi elle a des pattes palmées. Elle vous répondrait qu'elle ne s'est jamais posé la question, qu'au surplus elle n'en sait rien, qu'elle attend de vous que vous lui expliquiez pourquoi.
Ben, j'aimerais savoir si René De Cellier est tout à fait d'accord avec cette réponse qui n'en est pas une.
Bien, c'est-à-dire que Jean Dubuffet est certainement attiré, non pas par des questions, mais par des réalités plus directes. Et par exemple, à propos du dessin d'enfant, on a dû dire beaucoup de bêtises.
On a toujours comparé, on a toujours rapproché mes travaux, mes dessins et mes peintures de choses faites par les enfants. Mais il faut premièrement remarquer qu'à toutes les époques, on a comparé dès qu'on se trouvait en présence d'œuvres ne ressemblant pas aux œuvres auxquelles on est habitué, on n'a pas manqué de crier que c'était fait comme par un enfant. Et c'est ainsi que Péladon, pendant toute sa vie, a publié à corps et à cri que les tableaux de Manet avaient l'air faits par un enfant. On a naturellement répété la même chose à propos des travaux de Matisse, à propos des travaux de presque tous les artistes qui ont changé les conventions jusqu'alors homologuées.
Changer les conventions, vous voulez dire par là que vous remplaceriez les conventions, disons, académiques par d'autres conventions ?
Je crois que l'art est toujours basé sur des conventions. Il y a une espèce de langage, on brode sur un canevas et chaque artiste se fait un canevas spécial, un canevas qui lui convient à lui pour ses propres broderies. À partir du moment où vous prenez le canevas d'un autre, vous faites un faux art, une fausse monnaie, une singerie, un art de singe.
Qu'en pensez-vous, Georges Limbourg ?
Eh bien, je pensais tout à l'heure, justement, que tout à l'heure, Dubuffet disait qu'on avait accusé Manet de dessiner comme un enfant. Mais quand on dit que Dubuffet fait une peinture d'enfant, c'est dans un autre esprit qu'on le dit. Je pense, par exemple, à ce qu'on appelle ces bons hommes. Ils ont un caractère qu'on appelle enfantin. Pour certaines raisons, ils sont grotesques. Et alors, je crois que Dubuffet pourrait nous dire maintenant pourquoi, ou enfin ce qu'il entend faire par ces personnages grotesques, ces personnages, évidemment, enfantins, c'est-à-dire dessinés n'importe comment, qui ont des bras suspendus en l'air, des mains mises comme des mouchoirs dans la poche du veston, dans des attitudes que certains trouvent souvent monotones et qui ne doivent pas l'être. Donc, ces personnages ont un sens curieux, très poétique, un sens d'apparition. Eh bien, Dubuffet pourrait peut-être encore nous dire leur sens, son goût du grotesque, l'expliquer.
D'abord, je dois en premier lieu dire que je trouve que les dessins d'enfants ne me plaisent pas. Contrairement à la mode, il y a eu une grande mode depuis quelques années des dessins que les enfants font dans les écoles. Je ne les aime pas. Je ne les aime pas pour bien des raisons. D'abord parce que je n'aime pas beaucoup les enfants. Je trouve les enfants d'un esprit un peu faible. J'aime les hommes faits, même les hommes d'une grande expérience. Et enfin, je suis un homme moi-même, j'aime mes semblables. Et j'aime l'art fait par mes semblables et pas celui fait par les enfants. Donc, les dessins d'enfants, d'une façon générale, j'y donne peu d'attention. Je les trouve très faibles. Mais je trouve que la position d'esprit dans laquelle un enfant dessine est bonne. Et ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, ce que peut-être j'ai recherché dans mon art, c'est de faire des peintures ou des dessins, des œuvres d'art qui soient faites par un homme adulte, un homme fait, et cependant qui conserve les qualités de liberté et d'invention que les enfants mettent en œuvre dans les leurs. Après ça, il s'agirait de savoir sur ce qu'on entend par des dessins d'enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans chaque époque, ce qui ne répondait pas au canon de l'art à l'époque en question, on a considéré que tout ce qui ne répondait pas à ce canon avait l'air enfantin. C'est une erreur de vision. C'est comme des gens qui seraient habitués à ne manger que du ravioli au fromage et qui s'intéresseraient beaucoup à toutes les différentes variations qu'on peut faire subir au dosage de fromage et au dosage de ravioli, sans s'apercevoir qu'il existe des centaines de mille d'autres mets. Et quand on me demande en quoi les dessins d'enfants ressemblent aux dessins académiques, aux dessins homologués d'une époque, J'ai l'impression que c'est à peu près la même question que si on demandait en quoi les autres mets diffèrent du ravioli au fromage. Ils diffèrent en ceci que le ravioli au fromage, il n'y en a qu'un. C'est un cas unique, c'est un cas d'espèce très particulier, tandis que toutes les autres choses sont immensément nombreuses, comportant immensément de possibilités. Donc, il faut se garder de cette impression que tout ce qui n'est pas spécialement ce ravioli au fromage doit être mis dans le même panier, dans le panier des dessins d'enfants ou de sauvages ou de primitifs ou de fous. On a tendance à ça à l'heure qu'il est. Maintenant, je dois répondre sur ce que disait Limbourg au sujet du caractère sommaire de mes travaux. Et c'est aussi peut-être en ça qu'il s'apparente aux dessins d'enfants. Les dessins d'enfants sont généralement faits hâtivement et avec des moyens très sommaires. Il est exact que j'ai un goût pour les façons de s'exprimer très sommaires. Et ce goût, je crois qu'il vient d'une impression que j'ai, que si on fait un visage trop complètement, on empêche l'imagination du spectateur de fonctionner. Si on fait un tableau où tous les éléments sont détaillés, le spectateur de ce tableau a son horizon bouché, son mécanisme imaginatif ne fonctionne pas. Au lieu que si on lui donne quelque chose d'un peu sommaire, il se produit un mécanisme psychologique chez lui qui entraîne son imagination à fonctionner, à suppléer aux choses qui n'existent pas sur le tableau, à leur ajouter.
Eh bien, cher Dubuffet, et pour quelqu'un qui n'aime pas analyser, pour quelqu'un qui prétendait réagir justement contre la critique, l'analyse et dans un certain sens l'exercice même de l'intelligence, il me semble que vous venez d'apporter une belle contradiction par ce que vous venez de dire. En somme, ce que vous faites tend à obtenir, par des moyens parfaitement concertés et pas tout à fait spontanés, une participation très étroite et très directe du spectateur, en somme, à vos tableaux. Vous ne lui demandez pas seulement d'être un contemplateur passif, vous lui demandez véritablement d'être un contemplateur actif. Mais on a beaucoup parlé de ces figures, de vos bonshommes. Il y a une catégorie de bonshommes sur laquelle j'aimerais bien que vous disiez quelques mots. Ce sont les bonshommes plus ou moins illustres que vous avez peints, que vous avez portraiturés. Plus beaux qu'ils sont, ou plus beaux qu'ils se croient, selon votre propre titre. Car vous avez fait des portraits de Jean Paulhan, de Paul Léotot et de quelques autres. Quel rapport entre ce qu'il faut bien appeler des portraits, qui sont même ressemblants, tout le monde se plaît à le dire, et les bonshommes de vos paysages ou ces apparitions que l'on voit tout à coup dans ces matières étonnantes que vous étalez sur vos compositions.
Je dois dire, ces portraits ont été faits après que j'ai fait des personnages qui n'étaient nullement des portraits, qui étaient des espèces de personnages comme ça, tout à fait généraux. Et ces personnages avaient un aspect, avaient très certainement un aspect grotesque qui a frappé les gens, qu'on a beaucoup reproché, n'est-ce pas? Et je dois dire que j'ai une attirance pour le grotesque, non pas du tout dans le sens de satire qu'on m'a prêté, car il n'y a pas de position d'esprit qui soit plus étrangère à la mienne, mais il me semble qu'il y a dans le caractère grotesque quelque chose de bouleversant. Et moi, j'aime qu'une œuvre d'art bouleverse, j'aime qu'une œuvre d'art frappe un très grand coup dans l'estomac. Je dois dire à ce propos-là quelque chose, c'est que mes tableaux sont toujours faits pour moi-même. Je ne fais jamais un tableau dans l'idée qui sera offert aux yeux d'autrui. Je fais des tableaux pour ma propre délectation, pour mon propre plaisir, pour les accrocher au mur de ma salle à manger. Et donc, je les fais pour moi. Par conséquent, je les fais à mon usage. J'éprouve un besoin qu'un tableau me surprenne, me transporte sur un plan de haut délire, un plan de très grand étonnement. Et le grotesque entre dans ça. J'ai l'impression que le très fervent, la grande ferveur s'associe facilement à quelque chose de grotesque. Une idole doit être grotesque.
Qu'est-ce que vous en pensez, Sellier ?
Eh bien, souvent, dès qu'il est question du grotesque, on pense à baroque, et il n'y a pas de doute que dans le cas des peintures de Jean de Buffet, il est absolument impossible de penser au baroque, mais à cette dimension des visages humains. D'ailleurs, tout dans la peinture de Jean de Buffet n'est pas que visage, et il y a aussi, disons, la peinture de paysage, dans l'étonnant bourg, enfin ce château en ruine, et c'est là, dans cette peinture, alors sans bonshomme et sans visage, c'est là, je crois, l'un des moments les plus étonnants de l'art de Jean de Buffet, mais qui pourrait peut-être, à propos de ces derniers paysages, nous parler des moyens qu'il utilise.
J'ai voulu peindre des paysages dans le même esprit que j'avais peint des personnages, en mettant en œuvre des moyens très simples, des moyens matériels, je veux dire, très simples. Moi, j'ai toujours voulu faire de la peinture, faire de l'art, en utilisant les matériaux les plus à portée de la main, les matériaux les plus décriés. J'ai une grande méfiance à l'égard des matériaux qui ont déjà servi pour l'art. Il me plaît beaucoup, afin de me garder de toute espèce de maniérisme, d'imitation de ce qui a déjà été fait, il me plaît beaucoup d'employer des matériaux nouveaux. Je crois que quand j'ai employé des matériaux, on a beaucoup ri dans les journaux de ce que j'avais employé, du plâtre et du goudron. On en a même ajouté, on a prétendu que j'avais employé je ne sais quoi, des écailles de harengsor et des choses imbéciles comme ça. Mais il est exact que j'ai eu plaisir, et encore maintenant j'ai plaisir à faire de l'art avec des matériaux qui habituellement ne servent pas à l'art.
Oui, du temps de Mirobolus, Macadam et compagnie.
C'est spécialement à cette époque-là que certainement j'ai été obsédé par cette idée. Je cherchais toujours des matériaux nouveaux, et plus ces matériaux étaient apparemment en opposition avec l'idée de faire une œuvre d'art avec eux, et plus ils m'attiraient, plus l'idée d'en faire quelque chose me plaisait.
Oui, mais tout à l'heure, Jean Dubuffet, vous parliez du grotesque, et à propos du grotesque, disons qu'après tout, vous peignez surtout pour vous, vous souhaitiez que vos propres tableaux vous jette dans la surprise, dans l'étonnement, et vous avez même employé l'expression « dans un haut délire ». Est-ce que vous considérez que l'œuvre d'art doit nous conduire, du moins, à la fête et à la fête délirante ? Et est-ce que vous faites une relation entre cette fête délirante et le grotesque ? Et vous savez, par exemple, que Claudel, ça vous surprendra peut-être, considère que le grotesque, dans une certaine mesure, est la plus haute pointe du lyrisme. Que c'est dans le comique, et dans le comique le plus énorme, que le lyrisme atteint sa plus haute expression. Est-ce que vous êtes de cet avis ?
Absolument oui, totalement oui. Je considère que toutes les grandes œuvres lyriques, poétiques, ont un aspect de très grande farce, de très grande plaisanterie. Par exemple, je trouve que les chants de Maldoror de Lautréamont, ou les ouvrages d'Edgar Poe, toutes les choses que nous aimons, sont des très fortes plaisanteries, ou tout au moins en sont voisines. Il n'y a pas loin entre une œuvre comme ça et une farce, mais naturellement j'entends une farce de très haute qualité, de très haute classe.
Oui, mais qu'est-ce qui fait la classe, justement, et la très haute qualité de cette farce ?
Oh, ça c'est absolument subjectif, je ne saurais pas donner d'explication là-dessus. Est-ce que quelqu'un pourrait dire qu'est-ce qui peut faire la haute qualité d'un poème ou d'une position d'esprit ? C'est très difficile de s'expliquer là-dessus, et encore plus de l'improviser, brûle pour point.
Sellier ?
Quand nous parlons de farce, est-ce que nous n'oublions pas en réalité, parce que l'époque se prête mal à ce genre de choses, enfin, qui était fort répandu, disons, au Moyen-Âge ou en d'autres civilisations, est-ce que nous ne devrions pas penser plutôt à la notion de l'art interdit ?
Oui, j'ai l'impression que l'art doit avoir un caractère interdit. J'ai l'impression, je me souviens quand j'étais un enfant, que de fumer une cigarette était pour moi une très grande joie, une très grande fête, parce que c'était interdit à mon âge. Et quand plus tard j'étais un adolescent, je me souviens d'avoir connu des moments d'exaltation de l'esprit, parce que je passais des nuits sans sommeil ou des journées sans travail, ou de toute façon, je faisais des choses qui étaient interdites, qui étaient en rupture totale avec le quotidien. Et je crois que l'art, pour avoir ce caractère de fête et d'ivresse qu'on lui demande, a besoin d'un caractère interdit.
Est-ce que ce caractère interdit, vous mettez l'accent seulement sur ce qui peut bouleverser le mécanisme habituel, ce qui peut aussi attenter au carcan des conventions sociales, familiales, etc., etc., ou bien est-ce que vous portez la valeur de provocation de l'art à un degré plus élevé et plus profond? Est-ce que vous considérez que l'œuvre d'art puisse aller jusqu'à être un attentat contre Dieu, si vous voulez? Est-ce que vous lui accordez cette valeur de provocation métaphysique?
Je ne crois pas du tout en Dieu, je ne suis pas chrétien, je suis même très attiré par le paganisme et j'ai même très envie de me convertir au paganisme et je vais me faire baptiser par un nègre. Les idées de monothéisme me paraissent imbéciles, je n'y souscris pas le moindrement. Et maintenant, après ça, je considère que l'art, comme vous le disiez, pour jouer très efficacement, d'une façon très forte, doit utiliser tous les interdits possibles. Donc, un interdit contre Dieu n'en serait pas un pour moi, parce que c'est comme si on parlait d'un interdit contre le Père Noël. Mais pour ceux qui croient en Dieu ou en des choses de cette sorte, je crois bien qu'en effet, un interdit, l'art doit provoquer tout ce qui est provocable, doit bouleverser tout ce qui est bouleversable, de façon à avoir provoqué un choc très marqué.
Et alors, quelle serait votre opinion, Jean Dubuffet, sur tous les efforts qu'à diverses époques, et aujourd'hui encore, les sociétés organisées, les États, les gouvernements, déploient, disent-ils, pour protéger les artistes, pour faciliter ce qu'ils appellent les échanges culturels, pour créer ou soutenir un marché des œuvres d'art, etc.
Je trouve que rien ne peut plus fausser la position normale de l'art que cette protection qui est donnée par les gouvernements aux artistes et cette espèce de mérite qu'on attribue dans nos sociétés à la création d'œuvres d'art. Quand un nègre faisait une statue nègre de celle que maintenant on admire si fort dans nos musées, il ne s'agissait nullement d'un homme patronné par le gouvernement nègre, il s'agissait d'un petit paysan qui, en rentrant de son champ, s'amusait avec son couteau à tailler du bois. Et moi, je voudrais que l'art soit toujours fait dans cet esprit-là. Je vous disais tout à l'heure que l'art, pour être une fête, pour moi tout au moins, c'est évidemment subjectif, doit avoir un caractère illicite. Et je voudrais de tout cœur que l'art soit interdit. Moi, si j'étais chef d'un gouvernement, la première chose que je ferais, ce serait d'interdire l'exercice de l'art, comme Mahomet l'a fait. Mahomet a détesté les poètes et les musiciens, il les a chassés. Il a eu bien raison, et je ferais de même. Et à partir du moment où l'art, au lieu d'avoir ce caractère que je disais tout à l'heure, illicite, devient quelque chose d'encouragé, quelque chose de moral, quelque chose de même auquel on attribue du mérite, ça n'est plus de l'art du tout. Rien ne peut le fausser davantage. Et dans un temps comme notre temps, où on pose les choses sur ce terrain, c'est alors que les artistes doivent, selon moi, charger davantage qu'ils ne l'ont jamais fait dans le sens provocateur de leur art.
La radiodiffusion Télévision Française vous a présenté Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 mars 1954.